commencer ce qu'on appelle l'année scolaire. Ça ne veut pas dire qu'avant on n'ait pas travaillé, mais on a travaillé d'une autre manière. Et pendant l'année scolaire, qui commence un peu tard cette année-ci, mais c'est à cause des travaux, on essaie de porter un effort très grand sur le don de notre intelligence à Jésus, le don de notre intelligence à Marie. Or, Jésus aime bien des brebis grasses, donc il aime bien que notre intelligence soit quand même un peu purifiée et que notre intelligence soit capable d'être à son service. C'est la signification profonde, hein, des cours que nous donnons ici. On ne les donne pas comme dans une université habituelle, puisqu'on les donne dans une intention très spéciale d'un cadre de vie monastique. Et si on les donne avec cette intention, ça fait une vibration effrayante. Je ne sais pas d'où ça vient, ça. C'est trop fort, c'est vous, ça. C'est vous qui faites ça. Évidemment, c'est un bateau d'essai. Ça arrivera constamment d'être pris exactement, de voir comment les choses imprévues dans l'ordre de l'exercice. Vous savez bien, on a beau penser parfaitement tout, et dès qu'on est dans l'exercice, il y a toujours quelque chose qui n'a pas été prévu. Alors ce quelque chose qui n'a pas été prévu, c'est toujours de l'ordre de la matière. C'est l'individuation, c'est l'ordre de la matière, et donc c'est une espèce d'opacité particulière, très difficile à déceler. On n'arrivera pas. Je vais essayer de parler moins fort pour que ça ne vibre pas. C'est, ah bon, c'est vous qui réglez. Je peux y aller, c'est vous qui réglez. Alors réglez très fort, le mieux possible, avec l'imperium. Hein. C'est l'imperium, ça, Dieu. Donc, nous faisons ces cours ici de philosophie et de théologie comme à Rimont, puisque les deux maisons sont une dans la perspective profonde de la finalité. Elles sont différentes parce que ici il y a le noviciat, il y a le point de départ, par le fait même il y a des intentions plus maternelles, des intentions particulière vis-à-vis de chacun pour que petit à petit il arrive à cette capacité de s'organiser lui-même. Mais au point de départ, on s'organise dans l'obéissance au Saint-Esprit et dans l'obéissance profonde à l'égard de ceux qui sont les instruments du Saint-Esprit. Toute notre vie, on doit obéir au Saint-Esprit. Mais toute notre vie, nous n'avons pas à permettre. Alors, toute la vie, on a le Saint-Esprit qui doit être un permettre. Ici, vous avez l'avantage que le Saint-Esprit s'incarne. C'est une grande hérésie de dire ça, vous savez rien. Alors que le Saint-Esprit s'incarne à travers des pauvres hommes et un visage humain. Mais par la Sainte Vierge, on peut le dire, par la très Sainte Vierge. Le Saint-Esprit est là pour aider à faire cet équilibre qui est difficile. Hein. Parce que c'est le propre de la communauté Saint-Jean, de ne pas faire un noviciat complètement coupé des études. J'espère qu'on nous permettra de continuer ça. Je dis j'espère, parce qu'il faut rester docile à l'Église. J'espère qu'on pourra faire ça. J'en parlerai à Mgr Mayer en allant à Rome, et sans doute que là, les choses se détermineront encore. Mais jusque maintenant, on nous l'a toujours permis de pouvoir faire un noviciat, c'est-à-dire un moment de conversion intérieure en impliquant la conversion de l'intelligence. Et les cours que nous faisons ici, c'est pour convertir notre intelligence. Parce que vous avez tous une intelligence plus ou moins fêlée. Hein. C'est ça, c'est bien évident. Tout le monde, on a une intelligence plus ou moins abîmée par toutes les idéologies contemporaines. On a respiré cela. Nous ne sommes pas immaculés quant à notre intelligence. Et là, nous avons tous à convertir notre intelligence, c'est-à-dire à redonner à notre intelligence le sens que Dieu veut qu'elle ait. Découvrir que l'intelligence, comme dit saint Thomas, est capax Dei. Que notre intelligence, elle est faite pour découvrir Dieu. Et découvrir Dieu par elle-même. Dieu nous a donné la foi, ça va beaucoup plus vite, mais la foi n'est pas pour faire de nous des enfants gâtés. La foi est faire de nous des êtres encore plus intelligents que s'ils n'avaient pas la foi. Parce que dire j'ai la foi, donc j'ai plus besoin de métaphysique, j'ai plus besoin de philosophie, je n'ai plus qu'à apprendre des choses tout à fait secondaires, moi je considère que c'est pas la peine. On n'a pas le droit de dire ça. Ça, c'est le fidéisme. Et le fidéisme a été condamné par l'Église. Et c'est la grande hérésie moderne. Paul VI le disait à des théologiens. Et j'ai assisté à ça, et ça m'a beaucoup frappé. Paul VI a dit la grande hérésie moderne, vous théologiens, c'est d'être des fidéistes. C'est-à-dire de croire que l'intelligence humaine ne peut pas par elle-même découvrir l'existence de Dieu. Et dire, puisqu'elle ne peut pas, ce n'est pas la peine de faire des efforts. Bien, nous voulons essayer, dans la mesure que nous pouvons, chacun selon nos capacités, c'est bien évident, nous voulons mettre notre intelligence au service de la foi. Et une intelligence qui soit purifiée, une intelligence qui aille jusqu'au bout de ses exigences. Nous faisons de la philosophie, hein, et nous distinguons philosophie et théologie. Mais nous faisons toutes nos études dans une perspective monastique et contemplative. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est unique. C'est unique, ça. Cherchez bien. Vous ne trouverez pas beaucoup. Oui, il y aura des lieux, oui, comme Solesmes, il y aurait des lieux comme Faucombeau, où ils font ça. Mais eux ne poussent pas beaucoup les études. C'est vrai, il faut reconnaître, quoi. Il faut reconnaître, il faut dire les choses. Je le dirais si le père Abbé était ici, parce que c'est pas leur fonction. C'est pas leur fonction. Ils poussent beaucoup plus le point de vue de la liturgie, et ils doivent pousser le point de vue de la liturgie. Tandis que nous, si nous sommes fidèles à ce que Dieu nous demande, nous devons être des apôtres dans le monde d'aujourd'hui. Des apôtres qui savent que le mal le plus profond de notre monde d'aujourd'hui, c'est la corruption de l'intelligence et la corruption du cœur. Mais c'est la corruption de l'intelligence. On est en face du démon, l'ange des ténèbres qui se change en ange de lumière. On est en face de toutes ces grandes idéologies athées qui nous prennent de multiples manières et on est sous le bombardement de ces idéologies athées. Et nous devons essayer, dans la mesure où l'Esprit Saint nous permet et la Vierge Marie, de redécouvrir la pureté de l'intelligence. C'est un don de Dieu, l'intelligence. Et Dieu n'aime pas qu'on l'enfouisse. Il ne l'aime pas. Dieu n'aime pas qu'on soit bête. En disant, c'est pas la peine. Non, non. Dieu veut qu'on soit intelligent. Pour lui et pour nos contemporains. Je vous affirme que ce qui blesse le plus aujourd'hui beaucoup qui ont quitté l'Église, c'est qu'ils n'ont pas reçu des hommes d'Église, des professeurs de philosophie et de théologie, des réponses qui soient intelligentes. Alors ils ont tourné le dos. Ils ont dit, si c'est ça. Et Jésus répond toujours avec intelligence. Parce que Jésus aime le cœur et l'intelligence. Et si on aime le cœur, on aime l'intelligence. Alors, ne disons pas que la communauté Saint-Jean s'est faite pour les intellectuels. C'est horrible de dire ça. C'est affreux. La communauté Saint-Jean est faite en premier lieu pour ceux qui veulent se donner à l'agneau. En premier lieu, c'est ça qui est premier, c'est ça qui est primordial. Mais ceux qui se donnent à l'agneau veulent se donner d'une façon intelligente à Jésus. Parce qu'on sait que ça nous aide, même au point de vue de notre contemplation. Ça nous aide de mettre notre intelligence au service de la foi, pour lire la parole de Dieu. Et au fond, nos études philosophiques, c'est pour lire la parole de Dieu. Parce que lire la parole de Dieu avec intelligence réclame de nous un regard en profondeur. On ne lit pas la parole de Dieu uniquement au niveau exégétique, heureusement. On lit la parole de Dieu en mettant toute son intelligence philosophique au service de la parole de Dieu. Toute son intelligence philosophique au service de la foi. Et alors nous avons à ce moment-là une lecture en profondeur de la parole de Dieu qui nous aidera ensuite à la communiquer aux autres. Donc vous voyez, les études philosophiques, hein, c'est aiguiser l'instrument. Cet instrument qui est l'intelligence. Le purifier, le décanter. Vous savez ce que c'est que purifier un... tout simplement un lieu où l'on marche. Pensez au parquet de la chapelle, de l'église. Vous avez vu ce que c'était. Eh bien, notre intelligence est plus polluée que le parquet de la chapelle quand vous l'avez vu après pour la nettoyer. C'est plus pollué que cela. Et ça se nettoie moins vite. Parce que s'il fallait simplement passer sous la douche, à la douche écossaise de certains cours de philosophie, alors à ce moment-là, ça irait très très vite et très bien. Mais beaucoup plus longtemps. Mais il faut purifier notre intelligence pour Dieu, avec cette intention de l'offrir pour Dieu. Et la philosophie, c'est fait pour cela. C'est fait une vraie philosophie. C'est une purification de notre intelligence. Une purification de notre intelligence qui ne cesse d'aller plus loin. Il faut aller toujours plus loin dans cette purification. Parce que notre intelligence a une capacité infinie. Et donc, il y a une capacité infinie de corruption et il y a une capacité infinie de purification. Et cette purification, ce sont des purifications actives, puisque c'est nous qui devons faire ça. Par nous-mêmes. J'ai toujours cité cet exemple, et je le recite pour que ceux qui ne l'ont pas entendu, n'est-ce pas, comprennent un tout petit peu ce que je veux dire. C'est une vieille expérience que j'ai eue comme professeur de philosophie au Solchoir, chez les Dominicains. On m'avait demandé de faire la première année, je ne faisais pas que la première année, mais on m'avait demandé de m'occuper de la première année. À ce moment-là, la première année était très séparée et on enseignait la logique en première année. C'est très bien, je n'aurais pas fait ça, mais j'obéissais. Alors, on faisait la logique en première année. J'avais 15 étudiants, 20 étudiants là, j'en avais pas plus que 12. Et j'essayais de découvrir leur intelligence. Je m'étais aperçu qu'au milieu des 12, il y avait un canard. Les autres étaient des poussins, mais là, il y avait un canard. C'était très net. Ça coulait dessus. Je me demandais s'il écoutait, s'il comprenait quelque chose ou pas. C'était vraiment un canard. Au bout de 15 jours, elle est venue me trouver. Heureusement, au bout de 15 jours, elle est venue me trouver. Il m'a dit, père, vous savez sans doute qui je suis. Il dit, non. Ah, vous n'avez pas des fiches? Je dis, oui, je pourrais en avoir. Parce qu'ils avaient tout, ils étaient tous passés au novice simple une année avant, donc j'aurais pu avoir les fiches, le père maître était à notre disposition pour nous donner des fiches sur tel ou tel. Je dis, non, 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 j'aime mieux pas, j'aime mieux les découvrir. Parce que c'est pas la même chose, le regard du père maître et le regard du professeur, c'est deux choses différentes, j'aime mieux les découvrir. Ah, très bien. Alors, ce que vous m'avez découvert, je n'ai pas dit qu'il était un canard. Hein. J'ai dit non, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que vous avez de la difficulté, que ce n'est pas commode. Elle a dit oui, oui. Alors, je vais vous dire qui je suis. Je suis un converti du marxisme. Mon grand-père était marxiste, mon père était marxiste et moi-même, j'étais marxiste. Je suis d'un milieu sous-prolétaire. Et j'ai eu beaucoup de difficultés parce que mon père était tellement affilié au parti que tout ce qu'il avait en plus, il le donnait. Et très souvent, on manquait de faim. C'est comme ça que j'ai attrapé certaines maladies. Mais maintenant, ça va mieux. Alors, j'ai eu une bourse et j'ai été faire une licence de géographie humaine à Paris. Là, j'ai aimé quelqu'un. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Un beau jour, rentrant dans ma piolle, le soir, je me suis mis à genoux. Première fois dans ma vie. Et j'étais comme terrassé. Je me suis mis à prier, je ne sais pas combien de temps. Je croyais en le Christ. Je croyais en Dieu. J'aimais la Vierge Marie. Après, je me suis dit, il faut quand même aller parler à un curé. Mais comment ça se fait de parler à un curé? J'ai jamais parlé d'un curé de ma vie. Hein. Pas drôle. Alors, je me suis dit, j'ai entendu parler qu'il y avait des religieux. Les religieux doivent être un peu plus compétents. Normalement. C'est très joli, ça. C'est très, très joli. C'est pour ça que je vous le situe, comme ça. Ils doivent comprendre un peu mieux. Alors, j'ai demandé où il y avait des religieux. On m'a dit qu'il y avait des carmes à Avon. Alors, j'étais à Avon. Parce que je n'avais pas envie de parler hein, au curé que je voyais autour de moi. J'aimais mieux aller chez des religieux. Alors j'étais là-bas, à Avon, puis on m'a mis devant un père, puis j'ai raconté cette histoire. Alors, le père a dit, il faut quand même, maintenant que vous appreniez votre catéchisme, hein, pour savoir un peu ce que c'est, pour savoir, et puis vous préparer à recevoir le baptême, vous n'êtes pas baptisé, à faire votre première communion. Moi, j'ai vu quand il avait fait tout ça. Et ceux qui l'avaient voyaient, il y avait des étapes assez rapides. Et puis, il avait eu comme professeur Lefebvre, marxiste, un marxiste très intelligent, qui, au bout de 10 ans après la guerre, avait écrit un article sur le communisme en France depuis la guerre. Et cet article était un article de réflexion critique. Et comme on n'a pas le droit, en bon marxiste, de faire une réflexion critique sur le parti, on l'avait vidé du parti. Il était resté marxiste, pour vous montrer que c'était un homme très indépendant. Et ce professeur avait dit à ses étudiants, lui, quand il était marxiste, il suivait ça avec beaucoup d'amour, il n'y a que deux métaphysiques possibles. Ou Marx, ou Thomas d'Aquin. Ça, c'est joli, du reste. Il n'y a que deux métaphysiques possibles, ou Marx ou Thomas d'Aquin. Et alors, quand je me suis converti, je me suis dit, il faut que j'aille là où on m'enseigne Thomas d'Aquin. Je me suis renseigné auprès des Carmes, ils m'ont dit, ah, c'est les Dominicains. Alors, je suis entré chez les Dominicains pour connaître Thomas d'Aquin. Alors, il m'a raconté la manière dont il avait vécu le noviciat saint, c'était extraordinaire, je ne vous le dis pas ici. Ça fera partie des petites causeries du noviciat, parce que c'est intéressant de voir comment un marxiste converti va vivre son noviciat. Surtout à ce moment-là, il y avait un drôle de père maître assez particulier, c'était une période assez spéciale, et alors vous voyez très très bien, se convertit, voulant convertir son père maître. Tout simplement. Parce que il avait cette chose très très forte qu'on s'est converti, une espèce de flamme merveilleuse. Et alors il m'a dit cette chose très importante, qu'on reçoit des néophytes, et qu'on reçoit donc directement du Saint-Esprit. Le Christ a converti mon cœur. Mon cœur est au Christ. Mais le Christ me demande à moi-même de convertir mon intelligence. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Parce que quand on est devant des paroles comme ça, on se demande est-ce que c'est vrai, qu'est-ce qu'il y a de vrai. Et j'ai vu que c'était parfaitement vrai. Le Christ convertit notre cœur. Voilà ce qu'on doit faire. La pastorale, c'est la conversion du cœur. Avec l'Esprit Saint et avec Marie. On convertit le cœur des pères On convertit le cœur des mères, on convertit le cœur des jeunes, c'est conversion du cœur. Le point de départ de la foi, c'est la pia affectio, comme dit le Concile d'Orange. Et donc c'est incliner notre cœur pour adhérer à ce que Dieu nous demande. Et l'Esprit Saint nous laisse le soin de convertir notre intelligence. Alors il a continué en me disant, vous comprenez, j'ai fait profession pour 3 ans, je vais voir si je suis capable de convertir mon intelligence, alors je vous demande de m'aider. J'ai 3 ans. Elle dit, et si vous n'y arrivez pas, si vous n'arrivez pas à entrer dans saint Thomas, alors à ce moment-là, je ne ferai pas profession. Je retournerai dans le monde en étant un pieux laïc, et en me mettant ouvrier. Parce qu'en tant qu'ouvrier, je n'aurais pas besoin de parler. Je saurais que mon intelligence est fêlée, qu'elle est marxisée. Parce que je sais que je ne peux pas mettre mon intelligence marxiste avec ma foi. C'est impossible. Alors pour pouvoir parler, il faut que mon intelligence soit purifiée. Il faut que mon intelligence puisse être en harmonie avec ma foi. C'est beau, hein, de voir ça. Quelqu'un qui est converti, qui sait qu'il est marxiste, qui sait qu'il pense dialectiquement et qui veut convertir son intelligence. Eh bien, je crois que c'est ça que nous devons faire. Hein. Convertir notre intelligence. Alors, ça m'a beaucoup frappé. Vous comprenez qu'à partir de ce moment-là, je faisais le cours pour lui. C'est évident. Je faisais le cours pour lui pour convertir son intelligence, l'aider en mettant les points. Du reste, il m'a beaucoup appris. Parce que lui, quand je parlais avec lui, ce n'était pas les références avec la Bible, c'était les références avec Lénine. Lénine a dit ça, qu'est-ce que vous dites? C'était constamment comme ça. C'était des dialogues merveilleux, extraordinaires. Parce que c'était vraiment le type qui était entré à fond et qui avait son cœur converti. Mais son intelligence était marxisée, son intelligence était dialectique. Au bout de 3 ans, il a demandé de faire profession. Et par honnêteté, ça, j'ai trouvé ça très grand, il a été trouvé le père provincial, donc l'autorité suprême. Il y a dit, puis-je faire profession loyalement? Voilà ma situation. Alors je me mets en cause, mais ça n'a pas d'importance, parce que je le dis à titre d'exemple. Il a dit au père provincial, je ne m'entends qu'avec un seul professeur. Le professeur qui m'enseigne la métaphysique. Les autres, ils disent des bêtises. Ils disent des bêtises parce qu'ils sont tous un peu marxisés. Et alors, ça m'agace prodigieusement. Parce que moi, je suis impur. Je sais ce que c'est. Les autres, ils font des mixtures. Et entre autres, je savais bien. Il y avait, vous savez, le psychologue de la sexualité des araignées. Un spécialiste de ça. Dans sa bibliothèque, il y avait tous les livres qui étaient parus sur la sexualité des araignées. Alors vous comprenez qu'un marxiste s'agace, hein, ça l'agace prodigieusement, parce que c'est dépassé la sexualité des araignées. Alors ça l'agace prodigieusement, c'est pas ça qui est très efficace, et c'est pas ça qu'il voulait. Alors le père provincial a été très chic. Je le connaissais bien, c'était quelqu'un que j'aimais bien, il reste beaucoup, profondément. Il lui a dit, nous faisons confiance au père Philippe, puisqu'il est professeur de philosophie et de métaphysique. Alors, puisque vous entendez bien avec lui, j'en parlerai. Et si lui juge que vous pouvez faire profession, faites profession. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec tous les autres. Il suffit d'un. Puisqu'il est professeur, donc on reconnaît. Et j'ai confiance parce que je sais que lui aime saint Thomas. Tandis que les autres, je ne sais pas très bien s'ils aiment saint Thomas. Or, au fond, c'est ce que vous êtes venu chercher. Et c'est une vocation légitime de venir chercher la connaissance de saint Thomas pour que votre intelligence puisse être au service de votre cœur. J'ai trouvé ça très beau et très grand. Il a fait profession, du reste. Mais je crois que c'est ça que nous devons chercher, vous voyez ? purifier notre intelligence. Nous, nous n'avons pas à la convertir d'une manière aussi forte que cela, parce que je ne crois pas qu'il y ait des marxistes parmi vous, n'est-ce pas, au sens absolu, mais on est tous un peu marxisés. Il n'y a pas des spécialistes de la psychologie, de la sexualité des araignées parmi vous. Je n'ai pas encore rencontré. Mais c'est possible, après tout. Il peut y avoir des psychologues qui sont formés à la psychologie et qui n'aiment que ça. C'est très possible. On vient pour purifier son intelligence, redécouvrir son intelligence à sa source. Voyez, et les cours de philosophie, c'est ça. Alors on se met à l'école de maître. Des maîtres vivants et des maîtres morts, comme dit Topfer. Topfer, il faut lire Topfer. Je ne sais pas si s'il existe à la bibliothèque, mais Topfer est quelque chose de magnifique. Topfer, c'est Menu propos d'un peintre genevois. Si vous trouvez ce livre, lisez-le. Parce que Topfer est toujours en compagnie de l'âne. Et alors, il a cette petite phrase merveilleuse. En disant, il faut avoir des maîtres morts et des maîtres vivants. Les maîtres morts ne suffisent pas, il faut des maîtres vivants. Et les maîtres vivants ne suffisent pas, il faut des maîtres morts. C'est très beau, je fais cette comparaison entre les deux. L'objectivité des maîtres morts et l'influence des maîtres vivants. Alors, s'il n'y a que des maîtres vivants, on risque d'être uniquement pris par la subjectivité. L'influence de quelqu'un. S'il y a des maîtres morts, ah, ils rectifient. Enfin, nous avons des maîtres morts, nous. J'espère qu'on a des maîtres vivants aussi. Mais nous avons des maîtres morts. Saint Thomas, Aristote. Ça fait partie aussi, si vous voulez, de la spécialité d'ici. Parce qu'on ne cache pas ses couleurs. Aujourd'hui, on cache tellement Aristote et Saint Thomas. Ici, on ne les cache pas. Vous avez toujours le droit de lire Saint Thomas et Aristote. Sans permission. C'est extraordinaire, ça. Vous avez le droit de lire Aristote et ça. Pas pendant l'oraison. Ne prenez pas comme oraison le livre de la métaphysique d'Aristote. Hein, et vous amenez les amis. Non, ça, je dirais, c'est pas le temps opportun. Alors là, il faut le temps opportun. Mais en dehors de là, vous avez le droit, hein, dans vos temps libres, de lire la métaphysique d'Aristote, de lire le De Anima d'Aristote. Vous avez le droit de faire ça. C'est quelque chose de bien, quelque chose de bon. Il faut entrer dans la pensée d'Aristote. On se baigne dedans. Et les maîtres vivants sont là pour éveiller votre esprit. Réveiller votre intelligence. Permettre qu'il y a quelque chose qui aille plus loin. C'est cela. Et mais tout est orienté vers cela, vous voyez, conversion de votre intelligence pour la recherche de la vérité. Je ne vous imposerai jamais, à ça jamais, de dire ce que je vous dis, eh bien c'est ça à tout prix qu'on doit dire. Non, ce que je vous dis, ce que je vous dirai au cours, ce que je vous dis maintenant du reste, aussi, j'espère que c'est la vérité. Et si on me disait que ce n'était pas la vérité, je le brûlerai tout de suite. Ah, si ce n'était pas la vérité, si Dieu me disait que ce n'était pas la vérité, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui est là. Si Dieu me disait que ce n'était pas la vérité, je le brûlerai tout de suite, parce que je ne veux pas vivre d'opinion. J'ai horreur de vivre d'opinion. Les opinions, ça nous c'est lourd. Hein. Tandis qu'au contraire, la vérité vous libère. La vérité vous rend une intelligence libre qui recherche. Alors il faut une recherche de la vérité. Et nous pensons, nous croyons que l'intelligence est faite pour la vérité. La vérité, elle a des niveaux différents. Il y a des vérités banales. Le temps est gris. C'est une vérité, ça. Ça ne vous avance pas beaucoup, ça ne fait rien. Je dis que le temps est gris aujourd'hui, n'est-ce pas? Et s'il se mettait à pleuvoir, je vous dirais « il pleut ». Ou bien vous pouvez dire « je suis un peu fatigué ». C'est peut-être vrai. Quelquefois, il faut voir un tout petit peu, si c'est tout à fait juste. Là, c'est déjà plus subjectif. Mais il y a des vérités très simples, des vérités quotidiennes. Puis il y a des vérités plus profondes. Et ce qu'on cherchera, c'est les vérités les plus profondes. Les vérités à l'égard de l'être premier, à l'égard de Dieu. C'est ça qu'on cherchera. Parce que la contemplation nous fait regarder Dieu et nous fait regarder l'homme. Et au fond, le philosophe et la philosophie nous fait regarder l'homme et Dieu. Avant tout. Et toute notre étude, c'est d'essayer de découvrir ce que c'est que l'homme dans toutes ses dimensions. Découvrir l'homme dans toutes ses dimensions. Je n'ai pas le droit d'amputer l'homme. Je n'ai pas le droit d'amputer l'homme. Je dois au contraire chercher à découvrir toute la grandeur de l'homme en voyant sa précarité, en voyant sa faiblesse, en voyant sa fragilité. Je dois toujours voir les deux. C'est ça qui est merveilleux, vous voyez, en philosophie. Votre laboratoire philosophique, vous l'avez toujours avec vous. Parce que vous avez toujours l'homme avec vous. Alors, il suffit de comprendre. Hein. Et puis vous avez des compagnies merveilleuses dans votre laboratoire. Hein. Dieu a choisi des spécimens particuliers pour mieux comprendre ce que c'est que l'homme. Et alors, évidemment, il y a un spécimen extraordinaire. Toujours, nous avons à côté de nous un voisin, un prochain. Alors, faisons attention, nous l'étudions philosophiquement, c'est-à-dire avec un très grand amour pour comprendre la dignité de l'homme qui est en lui, pour comprendre sa grandeur qui est en lui. Et puis, nous comprenons aussi sa précarité. C'est bien évident. C'est ça la chose merveilleuse d'une vie commune. Parce que la vie commune devrait être comme ça, très légère. Parce que la vie commune devrait être comme ça, très légère. La philosophie doit alléger la vie commune en donnant un très grand respect à l'égard de l'homme qui est à côté de nous. Il y a un très grand amour. Pas seulement la philosophie, hein. La charité fraternelle encore beaucoup plus. Mais la philosophie aide la charité fraternelle dans son exercice aérien, dans son exercice très spirituel. Ça aide beaucoup. Parce que ça nous donne un regard plus vrai, plus profond. Mais on ne s'occupe pas des opinions. On s'en fiche pas mal des opinions. Parce qu'on n'a pas le droit de s'en occuper. Alors les opinions, vous savez bien, c'est justement les informations sur chacun. Mais non, regardons l'image de Dieu qui est auprès de nous. Regardons l'enfant de Dieu qui est près de nous. Regardons celui qui est aimé par la très sainte Vierge auprès de nous. Et philosophiquement, découvrons l'homme, la dignité de l'homme. Vous voyez, l'homme et Dieu. C'est ça que regarde le philosophe. Le théologien, il regarde Dieu et l'homme. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'opposition entre les deux. Il y a un simple changement de vitesse, hein, qui est fameux, ça c'est évident. Parce qu'on parle de l'expérience et de l'autre côté, on parle de la foi. Mais entre deux, il y a une théologie philosophique dont nous parlerons et constituera. Alors comprenons bien que tous nos cours, que toutes nos études sont finalisées par la soif de contemplation. C'est la soif de contemplation qui doit donner le sens à toutes nos études. Ça, c'est très très net. De sorte que si vous êtes poursuivi par le Saint-Esprit, par une soif de contemplation, et que le don de sagesse ne cesse en vous de vous pousser, vous demanderez à ce moment-là conseil pour savoir s'il faut contempler toute la journée, contempler pendant tous les cours, ou bien s'il faut de temps en temps écouter le cours en disant, Saint-Esprit, je vous en supplie, pendant le cours, je veux vous écouter à travers le professeur. Saint-Esprit, permettez ça. Et Saint-Esprit tout de suite permettra. C'est extraordinaire, vous êtes comme ça, parce que ça fait partie de votre devoir. C'est vrai, ça fait partie de votre devoir d'État. Quand vous êtes dans un travail chez vous, le Saint-Esprit peut être plus exigeant. Il dit, n'étudie pas tout de suite, prie avant. Alors vous priez, et si le Saint-Esprit vous prend très fort, la prière peut durer. Alors vous direz à ce moment-là au Père Maître, vous me direz à moi-même, écoutez, je suis très pris par la contemplation, qu'est-ce que je dois faire ? Alors à ce moment-là, on essaiera de sonder les reins et les cœurs pour savoir si c'est la contemplation de l'aigle ou le miaulement du petit chat. Hein? C'est pas la même chose. On essaiera de sonder pour voir. Le miaulement du petit chat, vous voyez, c'est dire, moi je suis fait pour la contemplation. Alors le travail, oh non, Aristote, oh non, c'est un païen, c'est Saint Thomas, c'est un grand théologien, mais moi je suis un tout petit enfant de Dieu. Et Jésus a dit, je te rends grâce pour ces petits, et non pas pour les sages et les prudents. Moi j'aime mieux rester le tout petit auprès du bon Dieu toute la journée auprès de la Sainte Vierge. C'est tellement délicieux, la Sainte Vierge m'enseigne bien plus. C'est très vrai, quand la Sainte Vierge vient vous enseigner, elle vous enseigne bien plus. Mais, attention, est-ce que c'est bien la Sainte Vierge? Ou si c'est une doublure, hein, qui vient de vous, et vous vous doublez en disant, moi j'écoute la Sainte Vierge, c'est beau ce qu'elle dit, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Et puis là, c'est le rêve. Alors à ce moment-là, vous voyez, c'est plus la contemplation, et le devoir vient purifier l'imaginaire. C'est vrai, c'est des problèmes concrets, ça. C'est des problèmes concrets de toute la journée, savoir si c'est du Saint-Esprit ou bien si c'est de nous. Mais il y a une rectification constante, c'est que vous savez qu'il y a un devoir de travailler. Matin et Dieu. C'est un devoir merveilleux. Le devoir de devenir intelligent, c'est quand même pas mal, hein. C'est votre devoir. Devenez intelligent pour le Christ. En comprenant que votre intelligence a une forme particulière, ou spéculative, ou affective, ou artistique. Votre intelligence a une forme particulière. Il faut découvrir progressivement cette forme d'intelligence. Et la véritable intelligence n'exclut aucune forme d'intelligence. C'est l'imaginaire qui exclut. L'intelligence n'est jamais exclusive. Jamais. C'est ça qui est merveilleux. Comme la véritable amitié n'est jamais exclusive. Dès qu'il y a exclusivité, ah, c'est plus l'intelligence. Dès qu'il y a exclusivité, ah, c'est plus le véritable amour. C'est la passion ou c'est l'imaginaire. Ça, c'est très important de saisir ça. Que l'intelligence n'est jamais exclusive. Mais je sais que Dieu m'a donné une intelligence poétique. Dieu m'a donné une intelligence très affective. Et tant mieux, pénétrez par là. Et par là, vous arriverez progressivement à entrer dans ce que représente cette intelligence plus spéculative, plus métaphysique. Bon, une fois que je vous dis ça, très rapidement, je vous donne maintenant la matière. Hein. Après avoir donné l'esprit, on regarde la matière. Vous verrez ça, du reste, ce sera affiché. Vous verrez bien tous les cours que vous aurez. Alors, le frère Benoît vous donnera une introduction à la philosophie pour la première année. Hein? Parce qu'ici, il y a première année, deuxième année, troisième année. Hein? Alors, pour la première année, une petite introduction, c'est bon. Une petite introduction auquel vous pourrez poser du reste toutes vos questions. Ça c'est très bien. Vous verrez avec lui le rythme. Parce que d'une façon générale, j'avais oublié ça, mais je le redirai pour les cours, un peu la manière dont il faut travailler les cours et la manière dont il faut écouter les cours. Donc, il vous donnera une introduction au point de vue histoire et une introduction au point de vue pensée. Il vous montrera la manière dont il faut essayer de philosopher. Penser l'être, hein? Il vous dira la manière de penser l'être, non pas la manière de Heidegger, mais la manière d'Aristote, de Saint Thomas, la manière dont je crois qu'il faut penser l'être, c'est-à-dire essayer de le découvrir. Je vous ferai donc un cours, moi, de philosophie première. Évidemment, je prends la part du lion, hein. Je m'excuse, mais comme vous, c'est comme ça. S'il y avait quelqu'un pour pouvoir me remplacer, je ne demanderais pas mieux. Mais pour le moment, c'est comme ça. Et le Saint-Père me l'a demandé, alors. Je suis bien obligé de le faire. Parce que je me posais la question, est-ce qu'il faudrait mieux remplacer puisque je terminais à Fribourg. Et c'est le Saint-Père qui a dit non, reste avec la communauté Saint-Jean. Et enseigner la métaphysique à la communauté Saint-Jean. Alors voyez, donc, c'est un ordre du Saint-Père. Donc, alors, la philosophie première, dite métaphysique. Alors, nous prenons cette année-ci le point de départ. Vous avez la chance. La première année prend le point de départ. Et les autres, qui sont déjà arrivés au terme, reprendront le point de départ avec encore plus d'intelligence. Donc, nous recommencerons le cycle de la métaphysique, qui normalement, vous voyez, s'étend, parce que la métaphysique, c'est quand même un gros morceau, avec 2 heures par semaine, autant que possible. Puis, que toujours, quand on regarde le point de départ, il faut regarder le terme. Nous regarderons un petit cours de théologie naturelle, une heure, sur les attributs de Dieu. Ça, c'est très beau. Très beau d'essayer de comprendre ce que l'intelligence humaine peut dire de Dieu. À côté de la métaphysique, il faut toujours l'éthique. C'est très pensé, vous savez, ce que cette organisation des cours. Hein, on peut croire que c'est le hasard, c'est point de départ, l'alpha et l'oméga, l'alpha et l'oméga, l'alpha, c'est de voir comment on commence, et puis le terme, la contemplation. Alors, comme la métaphysique implique toujours l'éthique, puisqu'on doit regarder Dieu, voir comment on aboutit à Dieu, puis comment on regarde l'homme. Alors il y aura un cours d'éthique. Alors le cours d'éthique, il ne commence pas cette année-ci. Ça aussi, c'est très pensé. Pour qu'il n'y ait pas une année où tout commence. Mais il faut que ça saupoudre. Alors, on commence dans certains domaines, et puis dans d'autres domaines, on ne commence pas. Donc le cours d'éthique, pour la première année, devra prendre le train en marche. Ne craignez pas, je dirais, sans m'attarder trop, parce que autrement, toute l'année serait sur le commencement, mais comment commence le cours d'éthique et ce que nous verrons ensemble. Ce que nous verrons cette année-ci, c'est à la lumière de l'amour d'amitié, l'exigence des vertus. C'est austère, très très bon, très très bon. Et le frère Benoît fera parallèlement à cela lecture de certains textes de l'éthique. C'est très bon. Parallèlement à l'éthique, il y aura un cours de philosophie de l'art. Parce que je crois que c'est bon toujours. Hein. Les anciens savent bien qu'il y a le facere et l'agir. Hein. Alors les deux sont nécessaires pour comprendre bien ce que représente l'homme dans son développement. Alors dans la philosophie de l'art, là aussi, ce ne sera pas le point de départ. Ce sera prendre le train en route. Également pour la philosophie du vivant. Alors la philosophie du vivant, c'est seulement pour les deuxième et troisième années. Sauf si parmi les premières années, il y en a vraiment qui sont déjà un peu avancés au point de vue philosophique et qui désirent. Alors ça, ils le diront. Ils le diront au frère Benoît, parce que c'est le frère Benoît qui organise les cours avec le consentement du père maître. Hein? Toujours. Il y a une coordination entre les deux. Mais c'est le frère Benoît qui normalement remplace ici le père Marie-Alain, qui est son vicaire, son assistant, et donc c'est lui qui organise les cours. Vous voyez, je vous dis ça pour que vous sachiez, voir un peu, vous ferez vous-même un petit programme, et puis vous verrez, c'est des choses qui ne vont pas. Eh bien, le cours de philosophie du vivant, deuxième et troisième année, là nous prendrons le train en route aussi, avec... Il y aura avec lecture des textes du frère Benoît. Il y aura ensuite, alors pour les débutants, pour la première année, vous voyez, j'en regarde quand même, hein, introduction à la logique et la critique. J'ai pris ça parce qu'on me l'avait demandé. C'est un cours, je crois, très important, difficile parce que c'est au début, mais c'est important. Vous voyez, c'est parallèlement à la métaphysique. Mais c'est au terme de la métaphysique, je vous expliquerai. Il y a des liens entre les deux. Il y aura un cours de critique de M. Balmès et un cours de logique de M. Balmès. Pas pour la première année, sauf s'il y a des gens très très forts en première année. N'est-ce pas ? Autrement, normalement, c'est pour deuxième et troisième année. Pour essayer, je crois. Deuxième année. Il y aura un cours de sociologie. Alors ça, c'est les cours qui se donnent d'une façon courante. C'est-à-dire, c'est les professeurs qui pratiquement sont ici à demeure. Monsieur Balmès n'est pas ici à demeure, mais il viendra chaque semaine. Il y a les autres cours, c'est par mode de session. Il faut bien, là encore, avoir quelque chose de divers. Hein? Alors, il y aura des sessions. Des sessions, c'est des temps forts sur telle ou telle matière. Alors, il y aura des sessions au niveau proprement sociologique, la sociologie qui est donnée par M. Delobier, par frère Delobier, qui est un frère, parce que c'est un frère, tout simplement, au point de vue de l'esprit, au point de vue du cœur. Il est professeur à Genève, vous savez. Alors, sociologie, introduction à la sociologie politique, et puis le point de vue d'Aristote et de Marx. Il y aura un cours de notre père Stéphane Marie, sur Platon, par mode de session, parce qu'il ne peut pas être ici tout le temps. Alors, ça, c'est plus donné par mode de session, ce sera un cours habituel. J'aurais dû me mettre là-bas, mais ça ne fait rien. C'est avec M. Balmès, c'est sur la philosophie moderne et contemporaine. Hume et Kant. Il faut de temps en temps regarder les hérétiques comme des frères séparés au plan philosophique. Ce sont des frères séparés au point de vue philosophique. Ils sont un peu rasoirs, mais ça ne fait rien. C'est des frères séparés qu'on aime beaucoup, parce qu'on doit les aimer beaucoup. Ce sont des frères séparés. Alors, ils ont une tenue particulière, spéciale, un habit spécial, vous verrez très bien. Hume et Kant, il faut savoir ce que c'est. Parce qu'on ne peut pas faire de la philosophie sans savoir ce que c'est que Hume et Kant. Et puis alors, un frère séparé, encore plus, à celui-là, il crie fort, c'est Hegel. Alors, ce sera donné par Prosper, notre cher Prosper, qui fait partie aussi, vous voyez, de nos... Alors là, c'est par mode aussi un peu habituel, je ne sais pas, ou bien par mode de session, on verra un petit peu ce qui va mieux pour lui. Un cours par mode de session de M. de Muralt, le professeur M. de Muralt, qui est un ami, mais il ne faut pas l'appeler frère, vous, hein, quand même, c'était un peu différent, les professeurs à Genève. Hein. Alors il donnera un cours, une session sur Occam et Descartes. Alors, on le laisse un peu choisir, mais je lui ai demandé quand même d'insister, de faire entrer un peu dans Occam et Descartes, c'est quand même important. Vous voyez, alors, vous vous ferez petit à petit une petite map monde historique sur tous les philosophes. Il faut que tous les grands philosophes soient enseignés. C'est nécessaire. Dans la lumière de la vérité. Voir où ils se sont arrêtés, voir comment ils ont crevé leurs pneus, et puis ils se sont arrêtés, voir comment il y a eu des pannes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir toutes les pannes, voir comment Occam s'est regardé, comment Descartes s'est regardé, comment Hume s'est regardé. Il n'a plus regardé le réel. Et la même chose pour Kant et Hegel. C'est intéressant de voir les miroirs déformants. C'est pas commode. Notre intelligence n'est pas un reflet de la réalité. C'est pas un miroir. C'est autre chose. Alors, je termine. Au point de vue philosophique, il y aura un pro-séminaire pour la première année du frère Benoît, donc ça va tout à fait avec l'introduction, mais ce sera un pro-séminaire, ce sera encore quelque chose de particulier. Un pro-séminaire, on fait travailler les frères, de même le séminaire, il y aura un grand séminaire auquel j'essaierai d'être là, et quand je ne serai pas là, ce sera le frère Benoît, sur l'autorité, le bien commun et le pouvoir de l'État. Un séminaire en philosophie politique, parce qu'on ne fait pas beaucoup de philosophie politique, alors on l'a rabattu sur le séminaire. C'est très important et très intéressant. Oui, de voir Aristote, Platon, Marx, d'un point de vue politique, Hegel. Alors, on vous donnera quelques cours de théologie. C'est nécessaire pour que vous compreniez que vous faites de la philosophie pour la théologie. Alors, dans les cours de théologie, là encore, je suis obligé de vous donner quelques réflexions philosophiques, quelques réflexions théologiques sur la Bible. Ce n'est pas un cours d'exégèse, ce sera un cours de théologie sur l'Écriture. Et puis, de même sur Saint Jean. On continuera l'évangile de Saint Jean, ici. Tandis qu'à Raymond, je prends l'Apocalypse. Vous voyez, c'est complémentaire des deux côtés. Et puis, la théologie fondamentale. À la théologie fondamentale, je ferai cette année-ci l'inspiration prophétique. C'est important de saisir ce que c'est que le mystère de la parole de Dieu. Il y aura un cours d'histoire de l'Église, qu'on ponctuera, et puis des sessions d'exégèse du Père Spic. Donc vous voyez, vous avez quand même pas mal de matière à réflexion théologique. Évidemment moins que la philosophie. Alors, on arrangera pour voir comment la première année n'est pas trop de cours. en deuxième et troisième année, on devient des bêtes de somme, on peut donner beaucoup de cours. Tandis qu'en première année, il faut faire un petit peu attention. Il ne faut pas les crever trop vite. Hein. Alors, il faut faire un petit peu attention. Alors, on donnera des cours. Et puis, il faut surtout que la première année, il y ait quand même un grand effort au plan spirituel. Et bien, ce grand effort au plan spirituel fait qu'il faut ménager. Alors, comprenez bien que tous ces cours impliqueront à la fin de l'année un petit examen. Non pas du tout pour voir si vous savez, si vous êtes intelligent, à cause de l'Église. Si on n'avait pas d'examen, ce ne serait pas sérieux. Mais je ne considère pas que le sérieux des études, c'est l'examen. De sorte que je crois qu'il ne faut pas y penser. Travailler avec conscience, par amour pour le Christ, par amour pour Marie. Vous travaillez avec la plus grande conscience possible, le plus grand amour possible. Et puis vous ne cherchez pas trop la question d'examen. Alors la question d'examen, on la fixera à la fin de l'année. Parce que je ne fais pas un examen chaque semestre, mais à la fin de l'année. On essaiera de comprendre un peu la signification de ces examens. J'ai dit ça, c'est parce que je crois que c'est quand même bon de comprendre qu'il faut essayer de retenir quelque chose. C'est ça les examens. C'est de voir si vous avez retenu. Les examens ne sont pas faits normalement pour voir si vous êtes intelligent ou bête. Il y a des gens bêtes qui passent mieux les examens que des gens intelligents. Il y a la bête à examen. Puis il y a des gens qui ratent toujours leur examen. Ça ne veut pas dire qu'ils soient bêtes. Ça veut dire simplement qu'ils ne sont pas des bêtes à examen.
Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit.